Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, l'autre bataille du Pacifique, celle qui oppose la Russie et le Japon.
Oui, on se trouve dans le Pacifique Nord. Les diplomaties japonaises et russes sont mutuellement sous pression à une semaine d'une visite de Shinzo Abe, le Premier ministre, à Moscou. Les deux pays évoquent la conclusion d'un traité de paix plus de 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, même si sur le terrain, l'heure est aussi à la militarisation dans ce Pacifique Nord. On en parle avec vous, Franck Michel. On devait en parler avec l'historien Franck Michelin, qui est professeur à l'université Teikyo à Tokyo. On est en train de le joindre, ça a raccroché. Ce problème, de toute façon, des îles volcaniques, on va pouvoir l'exposer dès maintenant. Ce ne sont que 10 600 km², pas grand-chose, un vrai trait d'union, littéralement, entre le Japon et la Russie, et un contentieux récurrent depuis leur invasion par l'URSS en 1945, mais c'est vrai que depuis 2016 et depuis la fin de l'année dernière, avec une proposition de traité de paix sans condition de Vladimir Poutine, il y a une vraie accélération des négociations, en tout cas peut-être une vraie intensification des échanges diplomatiques. Donc aujourd'hui, c'est le ministre des Affaires étrangères japonais Taro Kono qui est à Moscou. Shinzo Abe, il sera dans une semaine pour sa 25e rencontre avec Vladimir Poutine. Toutes les étoiles donc semblent alignées pour régler un vieux contentieux, hein, on pourrait dire. Ce sont des positions plutôt tranchées, hein, puisque le Japon et la Russie ont tous les deux des conceptions très différentes au sujet de ces îles, qui sont appelées Kouriles du Sud par la Russie et Territoire du Nord par le Japon. Cette situation donc semble évoluer depuis 2016 avec des allers et retours diplomatiques incessants. Alors, on est en ligne, je crois, avec Franck Michelin. Bonjour Franck Michelin.
Oui, bonjour Xavier Martinet.
Merci d'être au téléphone avec nous. Donc, je le disais, vous êtes historien, professeur à la Teikyo University de Tokyo, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Alors, j'évoquais cette accélération ou intensification, disons, des échanges diplomatiques depuis la fin de l'année dernière et cette proposition de traité de paix sans condition de Vladimir Poutine qui devait être signé fin 2018. Est-ce que, selon vous, on peut déjà parler de négociations au sujet des Kouriles?
Bon, je pense que c'est assez, c'est un peu trop tôt pour parler de cela. Les deux pays ont à la fois intérêt à montrer faisant preuve d'esprit de conciliation et en même temps ne sont pas vraiment en capacité de faire les concessions nécessaires. Donc ça fait quand même très très longtemps que cette histoire des territoires du Nord, parce que pour les Japonais, il ne s'agit pas des Kouriles, c'est vraiment un point très important. Mmh. Cette affaire continue depuis déjà un demi-siècle et je ne suis pas très optimiste.
Et alors, que signifie selon vous la montée en pression diplomatique toute récente, quand le Kremlin s'alarme des propos de Shinzo Abe, paraît-il, au Japon, avec une tentative, dit Moscou, de tenter de faire monter artificiellement la pression, parce que Shinzo Abe aurait déclaré aux habitants qu'il fallait se préparer à la restitution, un abandon des demandes d'indemnisation russes, et il a dit que 2019 serait l'année d'un traité de paix. Est-ce qu'il s'avance trop? Qu'est-ce qui se passe de la part de Abe?
Non, mais évidemment. D'ailleurs, le retour des Japonais, des familles qui ont quitté ces territoires depuis 70 ans est probablement à peu près impossible. Ce qu'il faut bien comprendre en matière de relations internationales, c'est que les questions intérieures sont aussi importantes que les questions justement de relations entre pays. Et quand Poutine parle au Japon, il parle aussi à son opinion et c'est la même chose du côté d'Abe. Donc je pense que les questions de politique intérieure sont tout aussi importantes. Mmh. Et c'est justement la question des opinions des deux pays qui très largement bloquent toute solution du problème.
Et alors justement, il y a eu plusieurs épisodes de crispation plutôt importantes depuis 2009 et depuis que le Japon a fait passer une loi justement qui amendait, disons, la loi sur ces îles, ce qui a provoqué la colère de la Russie en 2009, mais également 2010, 2011, 2012, plusieurs épisodes avec des manifestations de nationalistes japonais parfois violents. Et pourtant, on a l'impression d'une bonne conjoncture depuis la réélection de Poutine et Abe en 2012, quand même, pour un règlement. Il en est beaucoup question, ils se rencontrent énormément.
Oui, ils se rencontrent énormément parce qu'ils ont tout intérêt à essayer de montrer ce type de visage sur la scène internationale. Poutine essaye très clairement de jouer le Japon contre les États-Unis, hein, sachant que les États-Unis commencent petit à petit à s'éloigner de la zone pacifique et que Donald Trump a plusieurs fois menacé les pays qu'il protégeait jusque-là, que les États-Unis protégeaient jusque-là, c'est-à-dire le Japon et la Corée notamment, de ne plus les protéger. Donc à terme, pour le Japon, se pose une question de sécurité. Pour les Russes, évidemment, jouer les Japonais contre les Chinois, essayer de mettre un coin entre les deux pays, ce que les Russes font de la même façon en Europe d'ailleurs, est une politique russe qui est assez claire. Maintenant, aller jusqu'à une restitution même partielle de ces territoires, ça semble quand même assez difficile. Sachant que Poutine, évidemment, a été élu et toujours sur l'image de protecteur de la nation, et que Abe lui aussi a toujours un programme très très à droite au Japon, donc je ne vois pas ces deux personnes effectuer les concessions nécessaires. Maintenant, pour négocier, comme on dit, ça ne mange pas de pain.
Parce que d'une part, il y a effectivement une politique, disons, très appuyée de la Russie concernant son Extrême-Orient, d'autre part, il y a cette conjoncture politique intérieure avec Abe, mais en même temps, il y a un besoin commun dans l'intensification, la réintensification des relations économiques. Je crois qu'en 2017 ou 2016, il y avait eu 31% des échanges qui avaient été perdus du fait du refroidissement suite aux sanctions japonaises contre la Crimée. Et les Kouriles pourraient avoir un intérêt de ce point de vue-là, non ?
Oui, ben, évidemment. D'un côté, les Japonais peuvent toujours servir à la Russie, qui est un pays qui n'est pas très très efficace au niveau industriel. Mais maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que depuis la disparition de l'URSS, la situation a bien changé. Le Japon était en position de force à l'époque. Maintenant, c'est plutôt la Russie, notamment en raison du problème énergétique. Faut savoir que le Japon a pratiquement arrêté toutes ses centrales nucléaires, ne possède quasiment pas de ressources d'énergie fossile, enfin extrêmement peu. Et donc le gaz russe, là aussi, est un outil extrêmement important pour... de pression ou un appât évidemment de la part des Russes vis-à-vis des Japonais de la même façon qu'il l'est encore une fois en Europe.
Et est-ce que ça peut être un appât assez important pour amener le Japon à infléchir ses positions, c'est-à-dire à renoncer à demander la restitution de deux îles, hein, les plus petites, les plus proches de Hokkaido au nord, ou alors est-ce qu'il y a une politique russe là géostratégique avec un intérêt trop important pour la Russie en ce qui concerne les sous-marins, la sortie des sous-marins vers le Pacifique, ou le risque de voir une base américaine à la frontière de la Russie, sur cette frontière, comme ça avait été évoqué.
Oui, ça c'est toujours la rhétorique russe à usage interne fait toujours planer la menace de l'OTAN et des États-Unis. Ça c'est un petit peu un jeu classique. Pour ce qui est de la restitution, il s'agit justement du côté russe, pas la restitution des deux îles de Kunashiri et Tolofu, qui sont les deux plus grandes, mais des deux tout petits archipels de Habomai et Shikotan, qui eux sont une toute petite partie de ces quatre territoires. Je ne pense pas que Abe étant toujours, montrant toujours un visage très nationaliste, puisse transiger sur la restitution de ces territoires. Il faut savoir que cette question de la frontière entre le Japon et la Russie court depuis le XVIIIe siècle, mais que toutes les différentes négociations ont toujours montré que la frontière passait entre les quatre territoires japonais et l'île suivante d'Ulup, qui elle a toujours été russe à l'époque. Donc les Japonais, à mon avis, ne transigeront pas là-dessus. Ceux qui veulent vraiment la restitution de ces territoires voudront la restitution des quatre territoires, puisque ces quatre territoires font partie pour les Japonais de Hokkaido. Je le dis encore une fois, ce ne sont pas les Kouriles pour les Japonais, ce sont quatre territoires qui appartiennent à Hokkaido, les Kouriles commençant au-delà des Tolofu.
Hein. Oui, c'est territoire du Nord, comme vous dites. Alors, en un mot, est-ce qu'on a affaire à deux positions forcément antagonistes, vu qu'il y a cette question essentielle du tracé de la frontière, effectivement, qui pourrait se déplacer pour le Japon ?
Effectivement, oui. Effectivement, et nous sommes face à deux personnages dont la légitimité tient avant tout à une image pas guerrière du côté d'Abe, ça serait un peu exagéré, mais en tout cas à une image de un petit peu de faucon en matière de politique internationale. je vois assez peu les choses bouger tant que les personnes n'auront pas changé. Alors Abe, évidemment, lui, sera bien obligé de céder le pouvoir à un moment ou à un autre, mais Poutine, évidemment, là, c'est évidemment beaucoup plus difficile à imaginer. Donc, il est clair, à mon avis, que ces deux pays ont intérêt à continuer de négocier, mais en même temps, je ne vois pas comment ils peuvent arriver à un compromis sur cette question, sachant que d'un point de vue du droit international et d'un point de vue historique, il faut savoir que les Russes ont complètement tort. Les Russes ont...
Allô, allô, Franck Michelin.
Territoire au Japon. Oui. Excusez-moi. Oui, oui, vous m'entendez?
Oui, oui, je vous entends.
Les Russes, en 1945, les Russes, en 1945, ont tout fait pour s'emparer d'un maximum de territoire japonais. Et ils avaient aussi des vues sur l'île de Hokkaido, il faut bien savoir. Donc ça a été quand même un parti pris, et Poutine d'ailleurs demande aux Japonais de reconnaître la situation créée par la guerre.
Eh bien c'est dit, il se réfère toujours à Yalta, effectivement. Merci beaucoup pour vos explications aujourd'hui, Franck Michelin. Merci, bonne journée.